Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local, votre émission autour de l'actualité en Mayenne que je présente avec Héloïse aujourd'hui. Salut Héloïse.
Salut Marie.
Et on est donc ravis de vous retrouver pour cette émission autour de l'actualité en Mayenne. Aujourd'hui donc mardi 20 juin, au menu pas mal de sujets. On va parler d'une technique pour économiser l'énergie pour certaines entreprises en Mayenne. Et oui, certaines s'y sont mises. Là en l'occurrence, on parlera d'une menuiserie. On va se plonger aussi déjà dans le programme du festival La Chalibaude à Château-Gontier ce week-end avec des arts de rue, du cirque, de la musique, plein de choses au programme. Ce sera décrypté avec l'une des organisatrices. Et puis, on va vous emmener dans les jardins du château des Arcis à Mélédumène avec cette exposition qui se déroule jusqu'à mi-juillet, une exposition d'art contemporain au milieu des jardins bien décorés, évidemment, de ce château des Arcis, avec plein de petites surprises à retrouver. Visite avec la propriétaire du château. Et puis, nous sommes mardi, évidemment, et comme chaque mardi, on retrouve avec plaisir la chronique de Donatien, intitulée aujourd'hui, et oui, je vous donne le titre tel quel, Tintin de 7 à 77 ans. Voilà, en espérant que ça vous donne envie de rester jusqu'à la fin de l'émission pour évidemment entendre cette chronique de Donatien. Mais tout d'abord, on va commencer avec toi, Héloïse, et cette nouvelle manière d'économiser de l'énergie en Mayenne.
Eh oui, Marie, copeaux de bois sur poussière, faire du chauffage en circuit court en utilisant ses déchets, telle est la solution trouvée par cette menuiserie à Mayenne. Aujourd'hui, je vous présente un système d'aspiration innovant mis en place dans un atelier de menuiserie bois. L'objectif est d'évacuer la poussière et la sciure de bois grâce à de gros tubes métalliques présents au-dessus des machines. Ceux-ci sont reliés à un gros silo de stockage qui fabrique ensuite de petites briques de chauffage. Un bel exemple de recyclage des déchets des matières premières pour consommer l'énergie autrement. On écoute Jean-Marie Gosselin, chef d'entreprise des menuiseries Bourreau et Novalu à Mayenne.
Nous avions mis en place tout un système de recyclage des aciers, des aluminiums, du carton. Nous n'avions pas trouvé d'alternative à la gestion des déchets du bois.
Vous avez réussi à trouver une solution qu'on peut qualifier d'éco-responsable pour justement pallier cette difficulté.
Eh bien, disons que nous avons mis en place à la construction de nos ateliers un système d'aspiration de nos sciures et copeaux de bois qui nous permet de fabriquer des briquettes et de chauffer nos ateliers via une chaudière bois de manière à n'avoir plus à recycler nos copeaux et sciures de bois et de chauffer nos ateliers à une température complètement adaptée à la fabrication de menuiserie bois, collage et séchage des vernis.
Ce système d'aspiration, donc, est tout aussi innovant qu'il est écologique, mais existe-t-il quand même des inconvénients ?
On n'a pas de nuisances vis-à-vis du voisinage. Et pour la partie fumée, nous avons mis en place un système de filtration des odeurs, ainsi qu'une cheminée de grande hauteur. Donc les deux cumulés font qu'on n'a pas de nuisances avec le voisinage. Alors, ce système a un double avantage, c'est que tout d'abord, il ne coûte plus à l'entreprise en matière de dépenses énergétiques pour le chauffage, mais coût double, il ne nous coûte plus non plus en frais d'évacuation des sciures et copeaux, ce qui nous assure une économie totale.
Vous vous êtes installé au cœur de la zone d'activité du Hara à Mayenne il y a 4 ans maintenant. Cette installation énergétique existe depuis quelques années maintenant. Quel bilan aujourd'hui pouvez-vous tirer avec le certain recul que vous avez ?
Écoutez, on ne reviendrait pas en arrière. On a trouvé tout bénéfice, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et surtout, ça nous a permis d'avoir un confort de travail au passage qui est exceptionnel par rapport à ce que nous pouvions connaître sur nos anciennes installations. D'ailleurs, mes portes restent ouvertes à des confrères qui souhaiteraient venir voir l'installation pour qu'on leur explique le fonctionnement et qu'ils puissent, à partir de là, en installer un système similaire.
Et Marie, ce type d'installation de valorisation des déchets se multiplie sur tout le territoire français, illustrant une prise de conscience des enjeux écologiques, même chez les professionnels.
Merci beaucoup Héloïse pour ce reportage. Reportage, donc vous l'avez compris, qui nous illustre en tout cas ces initiatives prises pour économiser l'énergie. On va passer à un tout autre sujet là pour le coup, avec des spectacles, et oui, ils seront nombreux d'ailleurs, ces spectacles circassiens, ces fanfares, ce théâtre à retrouver à tous les coins de rue du centre-ville de Château-Gontier ce samedi après-midi. Et ce dimanche, à l'occasion de la 33e édition du Festival de la Chalibaude, 15 compagnies sont programmées gratuitement ce week-end, avec un village du festival devant la salle des fêtes, ouvert de 16h à 23h samedi, et de 10h30 à 20h dimanche, sans oublier la nouveauté de cette édition, présentée par Coralie Boucher, responsable du service vie associative et culturelle à la ville et au pays de Château-Gontier.
On vient créer un nouveau temps fort le dimanche soir avec un spectacle de clôture. L'idée, c'est de rassembler tous les publics autour d'un même spectacle, du coup, qui viendra clôturer le festival et qui invitera les gens à finir le week-end sur notre village et à pouvoir se restaurer aussi sur le village le dimanche soir, avec une ouverture jusqu'à 20h, des food trucks et de la buvette associative. On retrouvera le traditionnel temps fort du samedi soir avec un spectacle au sein du Théâtre de Verdure du Jardin du Bout du Monde. C'est un spectacle par la compagnie des Filles du Renard Pâle. Il s'intitule Résiste. Ça mêle du coup funambule et musique live. Donc c'est un spectacle pour en mettre plein les yeux et les oreilles. Très impressionnant en termes de pratique et de funambule. C'est le collectif Point Triple, donc qui est un collectif mayennais avec dont une des comédiennes est donc de Château-Gontier et qui proposera un spectacle autour de la danse, de la poésie et des arts plastiques qui s'appelle C'est un beau jour pour ne pas mourir. Donc c'est un spectacle qui sera proposé uniquement le samedi au niveau de la place Saint-Just. On aura aussi les spectacles jeunes publics, comme chaque année, donc qui seront proposés en intérieur au sein de l'hôtel de ville. Donc on a des spectacles qui s'axent sur des publics des 3 mois, on va dire, qui nécessitent des petites jauges pour permettre un bon accueil du public, donc qui nécessitent d'anticiper un petit peu sa venue. On demande au public de venir 30 minutes, 20 minutes avant le spectacle pour pouvoir réserver sa place avant la représentation. Au total, c'est une quarantaine de bénévoles qui sont présents pendant le week-end. À côté de ça, on a également des hébergeurs bénévoles. Donc, c'est des habitants de Château-Gontier qui acceptent d'ouvrir les portes de chez eux pour accueillir nos compagnies. Donc, cette année, c'est 7 familles qui vont accueillir 7 compagnies de chez nous. Et ensuite, au-delà de pendant le festival, il y a aussi les bénévoles des différentes associations qui se mobilisent en amont du festival, notamment pour confectionner les post-affaires, pour préparer des expositions, reportages photos ou des émissions radio également. Donc on a beaucoup de personnes qui fédèrent autour de ce festival qui est une institution finalement maintenant sur Château-Gontier. Et donc ça continue et ça fait plaisir à voir.
Et l'émission de radio, bah c'est la nôtre, celle de l'autre radio, en direct sur nos ondes samedi de 14h à 16h, avec des compagnies invitées, des organisateurs bien sûr. Les différents lieux de spectacle sont regroupés entre l'hôtel de ville et le jardin du bout du monde, sans oublier une exposition à l'hôtel de ville qui sera visible d'ailleurs pendant tout l'été jusqu'au 2 septembre. Elle retrace plus de 10 ans du festival sous l'œil du photographe Frédéric Beer du kiosque à images. Le programme complet du festival La Chalibaude est en ligne sur châteaugontier-sur-mayenne.fr. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit aperçu, en tout cas, je vous propose d'écouter Mouka Samouka, une fanfare, en tout cas un groupe de musique qui sera présent ce dimanche sur le village de la Chalibaude à 12h45 et à 15h30. Et voilà donc un aperçu de ce qu'ils vont proposer.
We'll be right back.
c'était Mouka Samouka dans l'AGT du local sur l'autre radio. Mouka Samouka que vous pourrez donc entendre ce dimanche au festival La Chalibaude à Château-Gontier, bien sûr. Et puis, autre prescription, j'allais dire, après ça fait un petit peu médical, mais en tout cas, autre possibilité d'exposition et de choses à découvrir ce week-end, ou en tout cas en ce moment même en Mayenne, depuis déjà d'ailleurs un petit bout de temps, la 4e édition de l'exposition Arcis Jardin d'Art, Jardin des Arcis au Château des Arcis, comme vous l'avez deviné, à Mélay-du-Maine. Une exposition qui mêle art contemporain et patrimoine historique, puisque donc ce sont les œuvres de 5 artistes donc d'art contemporain, qui présentent leurs œuvres dans les jardins du château à Mélay-du-Maine autour d'un thème, créer et peupler le jardin d'Éden. Et je vous propose une petite visite avec Catherine Cauchois, la propriétaire du château des Arcis.
Donc ici, on est vraiment dans la partie d'accueil des Arcis. Hein. C'est la première pelouse sur laquelle les visiteurs arrivent et ils découvrent 3 îles réalisées par l'Eb. Une île aux oiseaux, une île aux insectes et une île aux poissons. Ici, nous sommes dans la deuxième partie de la grange où Jean-François Plaguet a installé ses sculptures sur bois. C'est de l'art abstrait, donc il se sert du fil du bois, des troncs qu'il récupère à droite ou à gauche. Donc il y a des platanes de Mélay, il y a des arbres qui viennent de la Mayenne ou de Bretagne. Il nous précise toujours le lieu d'origine de la sculpture. Des bois qui sont très clairs comme le frêne, des bois qui sont beaucoup plus roux comme le cyprès. Ou même l'olivier, je pense qu'il y a une sculpture qui était, il me semble que je reconnais de l'olivier. Et donc ça va de petites sculptures qui mesurent 50-60 cm de haut jusqu'à des sculptures qui font 3 mètres à l'extérieur. Et là j'adore cette flamme d'une pureté extraordinaire qui s'élance vers le ciel. C'est de loin ma préférée. C'est un travail un peu magique. Alors Jean-François Plaguet est donc sculpteur sur bois, il est aussi enseignant à l'établissement Saint-Michel de Château-Gontier et il a amené ici les élèves de terminale en option art plastique qui ont travaillé pour créer un potager extraordinaire. Donc ils exposent leurs œuvres dans la petite maison du jardinier dans laquelle on pourra passer tout à l'heure et ces légumes un peu extraordinaires sont agrémentés de textes plein d'imagination, où on peut connaître l'histoire du légume depuis l'Antiquité à nos jours et comment il a été transformé de la main de l'homme. On a vraiment tous les âges. L'école maternelle Fratellini de Mélay-du-Maine a participé, donc 81 enfants dans les 4 classes, des tout petits qui ont 2 ans jusqu'aux plus âgés qui ont 6 ans. Ils ont travaillé avec Monique Brotéché sur le thème du cirque, puisque l'exposition est sur le thème Jardin d'Éden. Il y a certainement des clowns dans le Jardin d'Éden, en tout cas ils existent dans le Jardin d'Éden des enfants. Et ils ont exposé leur cirque au milieu du verger, avec 4 personnages extraordinaires, en particulier une écuyère sur une poule, un clown, un acrobate sur un skateboard, et puis 2 équilibristes qui tournent l'un sur l'autre. C'est des œuvres qui font 2,50 m de haut, qui sont impressionnantes. Et on a des visiteurs qui venaient de la conservation régionale des monuments historiques ou de la région qui sont venus et qui m'ont dit non mais c'est absolument impossible que ce soit des enfants de maternelle qui aient réalisé ça. Eh bien si, ils devaient monter sur des escabeaux pour coller les morceaux de tissu et peindre. Mais ils l'ont fait. Et puis on a le dispositif Ulysse de l'école Notre-Dame de Mélay-du-Maine qui a travaillé sur le thème de la légende du petit colibri. Et enfin, on a des élèves de 5e du collège Saint-Martin qui ont installé des œuvres musicales sur la rive des oiseaux et d'autres œuvres dans notre colombier, dans le bas de notre colombier. Alors même si les artistes, disons adultes et chevronnés, sont le point d'orgue de l'exposition, c'est quand même vraiment bien qu'il y ait aussi des scolaires. Et ils sont extrêmement fiers et ça les valorise de voir qu'ils exposent à côté des grands artistes. On joue un peu sur le terme 6, Arcis, Jardin des Arcis. Donc on souhaitait avoir 6 artistes, mais il y a eu un désistement au dernier moment. Donc ils sont 5. Donc il y a... Si on commence, on va garder une galanterie ancienne puisqu'on est dans un patrimoine historique. Donc vous avez Constance Boulet qui est une jeune artiste qui travaille essentiellement le tissu. Et puis on a Annie-Gabrielle Mallet qui vient du sud-ouest de la France, qui a fait des céramiques et qui en a peuplé notre labyrinthe, des personnages extraordinaires. Et on a Monique Bretéché, donc que vous connaissez, qui a son lieu à Château-Gontier au garage. Et puis on a donc Jean-François Plaguet et ses sculptures sur bois, et Leb qu'on ne présente plus avec ses sculptures et ses tableaux qui sont en partie naïves mais pas que, qui signifient toujours quelque chose et qui expose dans ses tableaux dans l'orangerie et ses sculptures dans les jardins. Alors, on essaye toujours d'avoir des artistes différents. Il se trouve que quand on a lancé l'appel à projet Jardin d'Éden, il y a beaucoup de monde qui ont répondu, mais que Leb et Monique Bretéché, qui avaient déjà répondu pour notre première édition en 2019, ont fait des choses qui nous tentaient tellement que voilà, on les a repris. C'est un petit jardin que je dédie à tous nos petits-enfants, pas seulement les miens, mais à tous les petits-enfants de Mayenne et d'ailleurs. C'est un jardin que je veux faire sur le thème de l'écologie, du respect de la nature, de la biodiversité. Et donc, il a été peuplé justement par Monique Bretéché de volatiles un petit peu extraordinaires qui ont des noms très originaux. Donc, ce sont, disons, des oiseaux farfelus que les enfants adorent et qui montrent combien notre monde peut être divers, de l'aigle au moineau. Nous avons inventé un jeu sur le thème de Robin des Bois. Donc, nous sommes en Mayenne, et il y a du bocage en Mayenne, donc on l'a appelé Robin du bocage. C'est un parcours énigme, une sorte d'escape garden dans lequel les familles doivent résoudre des énigmes. Le but du jeu étant de rencontrer Robin des Bois et tous ses joyeux compagnons, de répondre à leur énigme et de cette façon de pouvoir régler la rançon du seigneur des Arcis qui a été fait prisonnier par l'horrible Pierre le Cornu, qui est le seigneur de Cran. Donc Pierre le Cornu a réellement existé à cette époque, à la même époque que le seigneur des Arcis qui a construit son château, c'était sous Henri IV. Et Pierre le Cornu était un brigand à la tête d'une bande de pillards qui rançonnait fréquemment tous les châteaux voisins. C'est basé sur des faits réels, mais enfin, Charles de Servan, le seigneur des Arcis, n'a jamais été fait prisonnier par Pierre le Cornu, mais Charles de Servan existait, Pierre le Cornu aussi, et Henri IV aussi, tout le monde le sait. Donc là, on est devant le panneau de Petit Jean, avec une énigme pour les adultes, une pour les enfants et une pour les bambins, donc les petites maternelles. Nous avons déclaré que Petit Jean était forgeron, et donc il y a une enclume et quelques outils de forgeron qui sont disposés pour satisfaire la curiosité des uns et des autres. Il y a 10 étapes. En fait, on démarre en rencontrant Belle Marianne qui vient du manoir de Favry. On rencontre ensuite l'horrible Jacques le Rapia qui évoque le shérif de Nottingham. Et on passe ensuite à Miche le Meunier. Miche, c'est pour la miche de pain, mais c'est aussi pour Muche, le compagnon de Robin des Bois. Et bien entendu, Miche le Meunier vient du moulin de Théval. On va rencontrer aussi Frère Tuc qui vient de l'abbaye de Clermont. Et donc ainsi, nous faisons un clin d'œil à de nombreux sites environnants pour inviter les visiteurs à aller les voir. On entre dans une petite roseraie et on peut regarder une sirène d'Annie-Gabrielle Mallet. Donc elle a les doigts de pied en éventail et on voit très bien sa queue en écaille. Le reste du corps, voilà, la tête ressemble à E.T., m'a dit un monsieur hier. Mais elle est très plaisante, installée là, à se reposer au bord de l'étang. Et puis derrière, on voit notre petite île labyrinthe. Et donc Annie-Gabrielle y a installé des œuvres en céramique qui représentent des personnages imaginaires très originaux qu'on découvre en se perdant dans le labyrinthe. Donc c'est un chemin intéressant. C'est la surprise parce qu'ils sont... Alors on peut deviner quelques têtes quand on sait où ils sont placés, enfin le sommet de la tête des personnages. Mais voilà, ils sont mis au secret dans le labyrinthe. Donc là-bas, dans ce bout d'allée, se reposant sur une très grosse souche d'arbre qu'on a eu beaucoup de mal à déplacer avec le tracteur et en s'y mettant à plusieurs, s'est installée confortablement une géante poulpe réalisé par Constance Boulet. Cette géante poulpe a quelques roses sur la tête et elle a de multiples bras. Donc vous savez, quand on a une mère de famille, surtout une mère de famille nombreuse, on rêve d'être une pieuvre avec un bras par enfant, plus un bras pour le panier à provision, plus un bras pour le sac à main. Et bien là-bas, voilà, pour moi, ça symbolise la mère et tout ce qu'elle peut donner à ses enfants. Je me vois très bien quand mes petits-enfants vont venir. Là, début juillet, je vais m'installer avec eux, m'asseoir devant cette géante poulpe et me faire prendre en photo, parce que je trouve qu'elle est absolument géniale, cet être mi-aquatique, mi-terrien, mi-humain, voilà, elle est très belle. Elle m'a parlé tout de suite, et puis voilà, au bord de la rive, on voit aussi des œuvres de Jean-François Plaguet, et celle qui n'est pas loin de la géante poulpe de Constance, avec son ossature et sa teinte claire, est extrêmement expressive. Voilà, je la garderai volontiers, mais malheureusement, on ne peut pas tout garder. Et voilà, je la garderai volontiers chez moi. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est les artistes. C'est-à-dire que quand on s'est réunis à plusieurs, on a demandé différents avis pour savoir quel artiste allait exposer. Et puis au mois d'octobre, on les a tous réunis pour qu'ils connaissent bien le jardin et qu'ils choisissent un petit peu leur lieu. Il faut savoir que toutes les sculptures ne peuvent pas forcément voisiner les unes avec les autres. Donc heureusement, le jardin est grand et il y a plusieurs atmosphères à différents endroits. Donc Annie Gabriel nous a tout de suite dit « Oh vraiment, le labyrinthe pour mes personnages, c'est magnifique, c'est extraordinaire. » Constance a dit « Oh ben moi, je vais faire une géante poulpe. » Elle nous avait déjà parlé de son projet. « Ça serait bien qu'elle se reflète dans l'eau. Où est-ce que vous pensez ?» Alors on lui a dit « Peut-être là-bas, parce qu'on la voit de partout. » Et elle a dit « Banco. » Donc c'est parti. Elle a créé aussi une fenêtre sur le château au crochet avec de multiples carrés de multicolores. Donc quand on s'approche de cette réalisation, on peut prendre une photo du château à travers une fenêtre dont le bord ressemble à un petit col Claudine. Et on a beaucoup de visiteurs qui se font prendre en photo à travers la fenêtre avec le château au fond. Donc des jolis souvenirs. Donc chacun choisit un petit peu son coin, son lieu. Il s'en inspire pour son travail durant toute l'année, puisque les sculpteurs viennent s'installer juste avant l'exposition, début mai. Et on essaye qu'ils s'installent tous ensemble parce qu'ils s'entraident. Donc on a 3 salles, donc il faut aussi qu'il y ait des artistes qui puissent partager des salles. Il faut qu'ils s'entendent bien et il faut que les œuvres voisinent bien. Mais tout ça s'est fait de façon absolument idéale cette année. Tout s'est très bien passé. Nous trouvons que c'est très important de valoriser les artistes. L'art n'a pas d'époque. Il y a eu un art au moment de la préhistoire, un art au Moyen-Âge, un art de nos jours. Et la nature et les jardins sont un écrin merveilleux pour des œuvres d'art. Le souci, c'est que les œuvres d'art doivent supporter la pluie, le soleil, la chaleur, la lumière. Donc ça n'est pas trop facile de trouver des artistes contemporains qui peuvent nous prêter des œuvres pendant 2 mois dans nos jardins. Et on trouve aussi que le lien entre le patrimoine historique et l'art contemporain, ça produit une forme de choc qui est extrêmement intéressant. Bon, bien sûr, il y a toujours quelques personnes qui nous disent qu'ils trouvent que ça ne voisine pas très bien, mais la très très grande majorité des visiteurs, au contraire, trouvent que et le lieu et les œuvres sont valorisées par la différence qui existe entre elles. Un peu comme si vous mettez quelqu'un de grand à côté de quelqu'un de petit, ben finalement la personne grande paraît encore plus grande et la personne petite encore plus petite. Et donc en fait, là, les œuvres paraissent encore plus spectaculaires devant un patrimoine historique. Et les jardins sont un écrin merveilleux. Et on a des personnes qui viennent sans savoir qu'il y a une exposition d'art contemporain et qui disent... Waouh, mais toutes ces œuvres, c'est extraordinaire dans votre lieu. Et puis on a l'inverse, des personnes qui viennent, qui regardent, qui nous disent « Oh non, non, moi je viens juste pour l'exposition, le château, ça ne m'intéresse pas du tout. » Et puis j'ai vu une dame qui était arrivée comme ça l'autre jour, et elle est repartie en serrant précieusement le document de visite et en me disant « Vous me l'avez donné, mais vous savez, je le garde parce que je veux absolument le lire le soir. Quand même, votre château et puis vos jardins, c'est quand même magnifique. » Donc finalement, nous disons que nous nous rendons service mutuellement et voilà, ça permet que des personnes qui ne connaissent pas le patrimoine historique se l'approprient et que des personnes qui sont un peu hostiles à l'art contemporain s'aperçoivent que finalement, c'est un art extrêmement beau et extrêmement intéressant.
L'exposition donc au château des Arcis, Amélie Dumaine, est visible jusqu'au 16 juillet. Alors tous les jours, sauf le mardi et le jeudi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. On va retrouver la chronique de Donatien d'ici, allez, 3 minutes, le temps d'écouter Smokey Joe and the Kid, Running to the Moon. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Agité du local sur l'autre radio. On écoutait Smokey Joe and the Kid Running to the Moon, issu de l'album du même nom. Bah oui, tout simplement, sorti il y a déjà quelques années. Et c'est le moment de passer à la chronique de Donatien en gardant sa respiration, je vous rassure, ça va marcher tout aussi bien. Et c'est un peu ce qu'il fait ici tous les mardis, nous raconter des histoires. Et ce sera aussi aujourd'hui le point de départ de cette chronique.
Âgé de 7 ans, Donatien adorait qu'on lui lise une histoire, même si, enfant précoce, il savait déjà lire. Malgré ses prédispositions, il aimait surtout que son père vînt dans la chambre et que pour l'endormir, il lui raconta l'histoire de Pinocchio, ce pantin dont le nez s'allonge à chaque nouveau mensonge. Le père de Donatien en tirait une leçon de morale qui se résumait à la nécessité de toujours dire la vérité. Pourtant, l'enfant avait surpris une bonne partie de son entourage à mentir sur l'existence d'une petite souris et sur celle du Père Noël. Or, jamais Donatien, suite à ce mensonge, n'avait vu sur aucun visage croître démesurément l'appendice nasal. Plus tard, ses soupçons se confirmèrent lorsqu'à l'âge de 10 ans, il alla chez le dentiste. Celui-ci, affublé de sa lampe frontale et armé d'une fraise abrasive, lui promit qu'il n'allait rien sentir. Donatien cracha toute sa déception et constata que le nez du tortionnaire n'avait ni grandi ni enflé. C'est vers l'âge de 15 ans que Donatien s'essaya à son tour au mensonge. Il voulut cacher à Isabelle, sa voisine de classe, une attirance assez vive. Fierté masculine oblige, il se défendit d'être amoureux, mais fut trahi par une autre partie du corps qui avait tendance à s'allonger. Plutôt satisfait de l'excitation que procurait chez Donatien le travestissement de la vérité, il commença une carrière de menteur compulsif. D'abord auprès de ses professeurs, puis de ses supérieurs pendant son service militaire, puis auprès de ses élèves, de leurs parents surtout, et de ses collègues, sans jamais être trahi, ni par aucune accélération cardiaque, ni par une sudation excessive ou rougeur intempestive, ni par une augmentation de la longueur de son nez. Il ne craignait nullement le détecteur de mensonges de William Moulton Marston, ce chercheur à l'origine de l'invention du polygraphe, une machine censée repérer les agents doubles des films d'espionnage au temps de la guerre froide. Cet Américain, chantre de la vérité, qui vivait avec deux femmes, dont il était polyamoureux, fut aussi l'auteur de comics et créateur de la célèbre Wonder Woman, armée d'un lasso magique qui capturait et brûlait les 10 heures de mensonges. Aujourd'hui, au cinéma, Donatien voit se ruer dans les salles ses fans de super-héros, ses foules consommatrices de rêves. Au cirque, il voit s'agrandir non pas le nez, mais les yeux des enfants face aux illusionnistes. Alors, Donatien demande à ses amis, à sa femme, à ses enfants et aux médecins qui regardent les résultats de ses analyses de lui raconter des histoires pour continuer à rêver.
De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelle ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. Ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien.
« La chronique de Donatien, tout en musique, comme toujours, avec en l'occurrence la chanson Le Funambule de Jean-Roger Caussimon. Merci beaucoup pour cette nouvelle chronique qui signe la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mardi 20 juin. Et oui, déjà, mais restez bien à l'écoute de l'autre radio, puisqu'à 19h, il y aura Sorcière. C'est la dernière émission de la saison, enregistrée en public il y a quelques jours. C'était d'ailleurs à Quilubu à Laval jeudi dernier, mais aussi ce sera suivi à 21h de l'émission Frères de chaussures, et nous on revient demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très belle journée.